Marche du Monde, Valérie Nivelon.
La Marche du Monde, enregistrée cette semaine au Togo, une émission spéciale 8 mars dédiée à toutes les femmes africaines, actrices et témoins de l'histoire.
1, 2, 3,
à chaque arrêt de jeu, le terrain devient une piste de breakdance pour chauffer l'assemblée. Les looks sont stylés à l'américaine, les cheveux ultra courts et les maillots ultra larges. Dans la chaleur d'un dimanche après-midi, l'équipe invitée de Couvée est reçue par celle de Vaughan. Les jeunes basketteurs sont encouragés par l'association LYSD à devenir des citoyens acteurs de leur propre avenir et sont ici rassemblés à 60 km de Lomé pour être sensibilisés contre la traite des êtres humains.
L'équipe de Vaughan qui évolue sur le maillot blanc et l'équipe de Couvée en bleu.
Nous rappelons que ce premier match, nous célébrons le 8 mars. Et nous donnons l'opportunité à nos jeunes sœurs de s'exprimer à travers le basketball, à travers le sport aussi.
Dans la ruralité sinistrée de cette région d'extraction du phosphate, le phénomène est bien connu de toutes les familles. Lié à la tradition de la migration et souvent vécu comme une fatalité lorsqu'un enfant ou un parent se retrouve pris au piège des recruteurs et réduit en esclavage, la traite apparaît néanmoins comme un risque lointain. Et pourtant, depuis 2005, une première loi punit le trafic des enfants. Largement médiatisée, elle aurait permis au Togo de procéder à quelques centaines de condamnations allant jusqu'à des peines de prison, d'après les toutes premières sources statistiques du ministère de la Justice. Mais bien que l'État communique encore très peu sur la réforme de son code pénal, depuis 2015, ce n'est plus seulement la traite des enfants qui constitue un crime, mais l'ensemble du trafic des êtres humains.
Là où nous sommes à Vaughan, ce phénomène est vraiment très présent, tout simplement parce que il y a les terres qui sont vraiment surexploitées, il y a la population qui augmente à tout bout de champ, c'est la polygamie ici, et dans chaque famille, vous pouvez retrouver au moins 6 enfants, ce qui fait que subvenir aux besoins de ces enfants devient de plus en plus un problème. Et à partir de là, les parents ont cette option-là, ils choisissent plutôt envoyer leurs enfants aller servir quelqu'un quelque part, si ce n'est pas à l'intérieur du pays, c'est hors du pays, et c'est là où les enfants sont victimes de traite.
Responsable du réseau de lutte contre la traite des êtres humains au Togo, pionnière dans la lutte contre la traite des enfants, Félicité Koublanou est assise au premier rang des chaises plastiques. À l'ombre des arbres, elle soutient les équipes de filles, mises à l'honneur pour la journée des femmes, applaudies pour l'occasion par leurs frères et leurs pères, massés au bord du terrain.
Dans notre tradition, on pouvait placer des enfants auprès des familles pour leur éducation. Mais au fil des ans, cela a commencé par dégénérer et ça se transforme de plus en plus en traite du moment où ces enfants-là sont exploités. Dans presque toutes les maisons aujourd'hui, même à Vaughan ici, lorsque vous entrez dans une maison et que vous parlez du phénomène de la traite, les gens vont vous dire, voilà, ils ont déjà entendu parler. Ils savent que c'est un phénomène qui existe, mais leur problème, c'est le problème de survie. C'est le problème de pauvreté, c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à retenir leurs enfants lorsque la situation se présente pour que ces enfants-là partent pour l'étranger, pour améliorer leurs conditions de vie et partant, améliorer les conditions de vie de la famille. C'était leur espoir.
Ici à Vaughan, l'un des nombreux foyers ciblés par les recruteurs, combien d'entre elles sauront résister à l'appel de l'aventure, aux propositions mirobolantes des marchands de rêves ou même à leur propre famille? Comment les sensibiliser aux réalités de la migration clandestine? Comment les protéger de la traite et de l'esclavage moderne dans un pays où chaque année, plusieurs milliers d'entre elles sont vendues pour être trafiquées? Lutte contre la traite, les femmes togolaises prennent la parole. C'est un nouvel épisode de La Marche du Monde sur RFI.
Vous allez bien? Très bien. Alors, tous ensemble, contre la traite des êtres humains. Tous ensemble contre la traite des êtres humains. Tous ensemble contre la traite des êtres humains.
Madame Félicité.
Merci beaucoup. Nous parlons aujourd'hui de la traite des personnes. Dans notre tradition, on parle de placement d'enfants. On a placé des enfants chez des tantes, des cousins, des oncles et autres, pour suivre une éducation adéquate. Ça a été fait dans le temps. Mais aujourd'hui, parfois ça dégénère en traite lorsque on n'arrive pas à entretenir cet enfant-là comme il faut. On l'exploite et les revenus même de cette exploitation n'arrivent pas à l'enfant, mais arrivent à celui qui l'exploite. La traite est un crime. Pour un seul vélo, on peut sacrifier sa vie.
Nous sommes très heureux, très honorés d'être parmi vous. La pièce qui vient, elle parle de l'histoire d'un petit garçon de 12 ans. Il s'appelle Passinawe. C'est un petit garçon qui vit avec sa maman au village. À la mort de son père, son grand frère a décidé de partir très loin, travailler pour aider sa maman. Depuis 4 ans, personne ne sait ce qu'il est devenu.
La traite, tout le monde connaît, mais le sujet est si tabou, si honteux et si douloureux qu'il est très difficile d'en parler. D'où le succès du théâtre Forum, proposé par Olivier Dubois et la compagnie Niagbé. Le public peut intervenir à tout moment et remplacer un comédien afin de changer le cours de l'histoire après l'avoir entendu une première fois. C'est l'histoire de Passinawe, confiée par sa mère à Tata Sika pour aller soi-disant gagner beaucoup d'argent, comme avant lui son frère Essona, tout juste rentré après plusieurs années d'absence.
Essona! Essona! Essona, tu fais ma fierté.
Maman.
Raconte maintenant.
Oh, laisse-le, il est fatigué.
Oui, maman.
D'ailleurs, le destin nous joue de drôles de tout. La semaine dernière, Tata Sika était venue au village. Elle veut aussi t'amener travailler avec elle, Passinawe.
Mais maman.
D'ailleurs, tout se passera bien. Hein? Tu auras travaillé dans une ferme. Tu vas apprendre le travail au champ. Tata Sika nous a promis que tu auras de quoi manger, de quoi vivre aisément.
Oui, bien sûr.
Et que tu suivras une bonne formation.
Bien sûr, bien sûr. Passinawe, ta mère a raison. Tout ira bien, tu verras. N'est-ce pas, Essona?
Passinawe, dis au revoir à ta mère. Et reviens avec un beau vélo, hein?
Et Gakemson a dit là, yo, Fifia, et Bétepé à ma ton, yemja du cadeau. Quand je pense que je gagnerai 5 fois ce que je viens de donner à ses parents, multiplié par le nombre d'enfants, trop facile.
Les enfants écoutent, bouche bée, les grands se moquent et font des commentaires, évoquent l'esclavage ou la colonisation. À côté de moi, une jeune femme ne rit pas du tout. Son visage est sombre, tendu. Je me demande si la scène lui évoque son propre passé.
Combien de temps ai-je dormi?
Tu es resté avec la fièvre pendant plus de 12 heures. Tu as déliré.
Ah bon?
Oui, on a bien cru que tu allais mourir. Il a fallu supplier pour qu'il te donne à manger. Et les autres aussi t'ont aussi donné un peu de leur part.
Tu sais quoi? Je crois que je vais m'enfuir.
T'enfuir?
Oui, je n'en peux plus. Je vais tout faire pour rentrer chez moi. Revoir mon village. Revoir ma famille pour qu'ils arrêtent de nous faire ça. Si ma mère savait qu'en réalité elle m'avait vendu.
Après avoir fui, Passinaoué se retrouve dans la rue toujours en train de commander. Parce qu'il n'a nulle part à aller, il n'a rien à manger. Toujours de nos jours, il y a toujours des gens qui viennent dans les villages chercher des enfants, les amener soit à Lomé, soit à Cotonou, à Abidjan, partout très loin, travailler. Et c'est eux, ils empochent l'argent. Attention, ça, c'est une réalité qui se passe toujours de nos jours.
L'histoire vraie, c'est celle de plusieurs milliers de femmes, d'hommes et d'enfants ici au Togo, où l'immense majorité des 7 millions d'habitants vit dans la grande pauvreté. L'histoire vraie, c'est celle de Rolande, qui a décidé de témoigner afin de participer aux actions de prévention de la traite.
Moi, mon rêve, c'était apprendre un métier comme coiffure. Normalement, dans le sud, il faut aller à l'école pour connaître à écrire et lire. Ouais. Et après ça, pour apprendre un métier, parce que ça sera facile. Mais moi, les deux côtés, c'était difficile. Mon village se trouve au nord, à Sotoboa, Titigbé.
Donc, pas d'argent pour l'école. Donc, ça veut dire que le rêve de coiffure s'est envolé ou alors vous avez cherché une autre solution?
J'ai cherché une autre solution. La solution, c'était faire l'aventure pour pouvoir travailler là-bas. Au moins, en travaillant chez quelqu'un, je pourrais faire l'économie et venir apprendre le métier de coiffure.
De quel budget vous aviez besoin pour réaliser votre rêve?
Par exemple, on peut vous demander pour la première fois une somme de 60 000 seulement pour apprendre. Après ça, toi-même, il faut ouvrir ton salon. Pour ouvrir ton salon, vraiment avoir tous les matériels, tu dois avoir quelque chose au moins de 300 000 à main parce que les matériels de coiffure, ça coûte. Donc les petits matériels, tu vas payer. Même 300 000, je vais dire, c'est peu quoi.
Comment vous vous êtes retrouvé à quitter votre village? Comment ça s'est fait?
C'est par le soutien de mon oncle qui est venu envers mes parents pour leur dire, comme votre fille à la maison, elle ne fait rien. Le mieux, c'est que de la faire sortir hors pays. De là-bas, elle pourra trouver un peu de l'argent pour revenir réaliser son rêve. Donc, c'est comme ça, en parlant avec mes parents, il a convaincu mes parents, mais il nous a fait comprendre que de là-bas, c'est plus mieux que si tu restais ici.
Alors, c'était où là-bas? Votre oncle, il vous parle de quel pays?
Il me parlait du Gabon. Que le Gabon, il y a de l'argent. Si tu pars au Gabon, si tu fais un an, tu peux venir avec beaucoup d'argent, tu vas ouvrir ton propre salon.
Combien d'argent?
Il m'a parlé de faire le calcul et que là-bas, on va trouver un boulot, on va te payer 50 000 francs. Donc, il faut faire le toto. À un an, tu auras combien?
Et comment vous avez réagi lorsque vous avez 18 ans et que votre oncle vous propose d'aller au Gabon pour gagner de l'argent?
Dès le début, je refusais parce que même l'histoire de l'aventure, ce n'était pas vraiment dans ma tête. J'avais toujours peur de sortir hors du village, à cause des dangers, tout ça là. Donc, j'ai refusé, mais comment les parents sont intervenus dedans, tous les jours ils ont commencé à me parler, ils ont dit il n'y aura rien, Dieu va faire, tu vas aller revenir. Bon, après j'ai dit bon, je n'ai pas de choix, je suis obligée de me jeter dedans.
Du nord du Togo, Rolande passe au Bénin, puis au Nigeria où elle est bloquée 2 semaines dans une maison où sont stockées 4 à 500 personnes parties comme elle à l'aventure. C'est là qu'elle comprend qu'elle fait l'objet d'un trafic. Et c'est par la mer qu'elle part du Nigeria pour arriver au Gabon.
En pleine nuit, on était dans une pirogue, on était plus de 250 personnes.
250 personnes dans la pirogue.
Oui, une grande pirogue. Vous êtes dedans. Il pleut, c'est sur vous. Le soleil aussi, c'est sur vous. On vous dit que comme vous êtes rentré sur l'eau là, il faut prier beaucoup. Parce que sur l'eau là, c'est danger. On prie, on chante souvent les chansons de le louange. On chante ensemble, on s'encourage, on s'attrape les mains. Je me demandais, est-ce que je vais sortir de là? Est-ce que je vais arriver où je vais partir? Est-ce que c'était nécessaire de faire ça? Mais je ne pouvais pas ouvrir ma bouche pour dire ça à quelqu'un. C'est dans ma tête. Ça marchait comme ça. Comment? Pourquoi? Qui m'a amené ici? Si aujourd'hui je ne sors pas, je vais accuser qui? Moi, mes parents, ou bien c'est Dieu lui-même qui m'a créé, ou bien c'est mon oncle qui m'a mis dedans, ou bien c'est la personne qui m'a pris pour amener, qui je vais accuser? Ça fait peur.
Tout comme la mer Méditerranée, le golfe de Guinée est un cimetière marin pour les migrants africains, car leurs déplacements se font d'abord vers le continent, notamment pour les plus pauvres. Issus des zones rurales, comme Rolande, la plupart des familles togolaises ne gagnent pas plus de 250 euros par an. Rolande, elle, sera achetée pour environ 400 euros, 250 000 CFA.
Celle qui m'a acheté n'était pas gabonaise, elle est togolaise. Mais elle m'a amenée dans une famille gabonaise. Arrivée là-bas, la personne qui est venue me chercher, on me dit on va appeler ta maman. C'est là que je ne comprenais pas. Arrivée chez elle, elle dit c'est moi qui ai donné de l'argent pour t'amener. Donc, je vais te chercher le travail, tu vas travailler pour moi. Pendant un an, tu vas me donner de l'argent, c'est moi qui vais prendre l'argent. Après ça, je te libère.
Cette maman-là, elle vous dit, j'ai donné de l'argent pour que vous veniez travailler chez moi. Mais là, est-ce que vous lui demandez combien elle a payé? Est-ce qu'elle vous dit combien elle a payé?
Elle ne dit pas, tu peux demander, elle ne va pas te dire. Tu peux demander n'importe comment, elle ne va pas te dire. C'est pourquoi moi, je dis c'est l'esclavage. Parce que la personne peut donner 200 000, ou ça 250. Le somme maximum, c'est 250. Ça ne dépasse pas. Et elle va vous trouver le travail. De 60 000, 80 000. Elle vient chaque fin du mois, elle prend l'argent pendant un an. Moi, quand je suis arrivée, elle m'a amenée. Elle m'a dit un an. Quand elle a remarqué que ça me reste seulement quelques mois à terminer, elle me dit non, 6 mois. J'ai dit non, 6 mois, c'est trop. Elle n'a qu'à me diminuer. Mais tu dis ça, tu ne peux pas dire ça avec la colère. Tu es obligé de la supplier. Parce que même si tu fais la force, ça ne va rien te servir. Tu es seul là-bas, tu n'as personne. Donc, je l'ai supplié, j'ai dit 6 mois, c'est trop. Donc, si elle pouvait me diminuer, elle a dit d'accord, elle va m'enlever 2 mois. Donc, ça fait que moi, total, j'ai fait 1 an, 4 mois pour payer cette dame.
Après avoir remboursé les 250 000 CFA, Rolande n'obtient toujours pas d'être libérée, mais elle réussit à s'enfuir. Pendant 1 an et 4 mois, elle me dit avoir été corvéable à merci, 7 jours sur 7, sans pouvoir jamais téléphoner ni sortir de la maison. Il lui a fallu 12 ans pour se reconstruire, gagner un peu d'argent, devenir maman et rentrer au pays affronter ses parents. Des parents déçus qu'elle rentre les mains vides, avec 2 bouches de plus à nourrir. Aujourd'hui, Rolande fait la manucure et le vernis dans la rue, pendant que ses 2 filles sont à l'école. Elle espère toujours devenir coiffeuse.
Oui, ça là, ce rêve me tient vraiment à cœur parce que c'est un travail que je souhaite pouvoir faire. Jusqu'à ce que Dieu me rappelle, j'aimerais vraiment, vraiment que ce travail, au moins un jour, rester dans mon propre salon, rêver, dire que malgré la souffrance, je suis arrivée quand même à faire réaliser ce rêve.
La lutte des femmes togolaises contre la traite, c'est une édition spéciale 8 mars de la Marche du Monde et c'est à suivre sur RFI.
Marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de notre documentaire sonore tourné au Togo, d'où partent chaque année des centaines de femmes pour tenter leur chance à l'intérieur et à l'extérieur du continent africain. Un départ forcé pour l'aventure, souvent imposé par la famille, mais parfois aussi un départ volontaire, déclenché par les propositions mirobolantes des recruteurs clandestins, relayées sur Internet via les réseaux sociaux. Ces recruteurs sont souvent des recruteuses. Elles travaillent pour des agences de placement situées dans les pays de destination, en Afrique centrale ou au Moyen-Orient, et elles sont à la recherche de travailleuses domestiques. C'est l'histoire de Rolande, exploitée par une agence gabonaise de Libreville, mais c'est aussi l'histoire de Yolande, partante pour l'Europe.
C'était un nommé Tony. Il venait acheter chez moi et il a dit la façon dont je me débrouille, qu'il aimerait bien que j'aille travailler ailleurs pour bien gagner ma vie.
Qu'est-ce que Tony vous propose?
Il me proposait d'aller travailler à l'extérieur, oui, au pays des Blancs. Et comme c'est le Eldorado pour nous, je me suis dit je vais avoir mon salaire en euros ou bien en dollars, c'est mieux que de gagner en CFA, oui.
Alors qu'elle gagne péniblement 200 euros par an, Yolande ne résiste pas à la proposition d'en gagner 200 par mois, soit environ 130 000 CFA. Mais l'aventure migratoire comporte de nombreux risques et partir sans papier ni contrat donne tout pouvoir aux trafiquants. Alors que Beyrouth et Lomé tentent un rapprochement diplomatique afin de mettre en place un protocole légal d'embauche des travailleurs domestiques, plusieurs milliers de Togolaises se retrouvent chaque année esclaves de familles libanaises en toute impunité.
Le 16 octobre 2008, il m'a appelé pour me dire que voilà, le départ est sur le 17 à 11h45. Donc, j'ai sauté. Oui, j'étais contente, toute joyeuse. Et comme ça, j'ai pris le vol pour le Liban.
Est-ce que vous saviez, Yolande, que vous partiez au Liban?
Non, je l'ai su à l'aéroport. On a fait l'escale à Éthiopie pour changer de vol. On a repris un autre avion. J'étais arrivée à Beyrouth vers 1h30 du matin. Et la famille d'accueil venait me chercher entre midi et 13h. Et elle m'avait pris pour un petit village, Fados Village. Il y avait une Éthiopienne qui travaillait là-bas. C'est de là que la fille a commencé par me parler des petits trucs. Je n'avais aucune idée de la situation. Aucune idée. Ce que je sais, c'est que le Liban, c'est un pays de guerre. J'aime me battre pour me sauver, pour sauver les gens. Donc je me suis dit, Dieu, tu es avec moi. Je vais aller revenir. Elle nous avait pris pour le champ. Comme ça, le champ. Parce que même chez moi, je n'ai jamais allé au champ. Et voilà qu'on me prend, qu'on m'amène au champ. Et c'était récolte d'olives, le temps d'olives. Donc, on a accueilli les olives, à les ramasser. Après, on quitte la maison vers 8 heures. On rentre entre 17 heures et 18 heures. Vous allez le matin sans rien manger. Je me suis dit non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce qu'on m'avait dit. J'ai commencé par me révolter. Donc, on s'est chamaillé sérieusement et j'ai commencé par leur faire la tête. Comme ça, la dame était énervée. Elle m'a pris directement pour une agence.
Ramenée à Beyrouth, à l'agence de recrutement, Yolande va bientôt obtenir d'être placée sous la tutelle d'une autre famille. Je suis frappée par l'exactitude de son récit, sa mémoire des dates, des heures et des noms de tous les responsables de son exploitation.
La dame s'appelle Zoha, le monsieur s'appelle Basile, et il me faisait comprendre que je n'ai pas le choix, j'ai à terminer 3 ans avant de retourner chez moi. Donc si je ne veux pas aller au champ, qu'ils vont chercher une famille d'accueil, parce que Je leur avais déclaré une guerre, que je voulais partir coûte que coûte chez moi. De là aussi, j'ai appris que, au fait, que je n'avais pas à utiliser un centime, que c'était eux qui envoyaient tout l'argent, même pour le passeport, alors que le prénommé Tony ici m'avait soutiré beaucoup d'argent. Le contrat était en arabe. Et il m'avait donné le papier en arabe pour signer. Donc, je leur ai dit que je ne peux pas signer parce que je ne lis pas la langue. Donc, j'aimerais bien avoir le contrat en français ou bien en anglais. J'ai refusé jusqu'à ce qu'il me donne la copie en anglais. J'ai essayé de lire, de comprendre certaines choses. Je leur ai dit, c'est pas le salaire qu'on m'avait proposé au pays. Donc, je ne suis pas d'accord de signer. J'ai eu une raclée de la part de mon patron, une très sérieuse raclée, grande raclée, que je ne peux jamais oublier d'ailleurs. Il m'a menacé que j'ai à signer, sinon ils ne vont pas me laisser partir. Je n'aurai plus à voir mes enfants, ma famille et autres. Et je leur faisais la tête jusqu'à ce que la dame est venue m'amadouer ou bien me faire, on dit, jacouettu. Et elle a voulu me prendre pour une idiote. Et parce que pour les Libanais, les Africains sont des idiots, ils ne sont rien du tout, bref.
Donc, dans cette nouvelle famille, dans cette troisième famille, Yolande, vous obtenez un vrai contrat de travail.
Oui.
Vous obtenez un salaire. Mm-hmm. Est-ce que ce salaire, vous le touchez à la fin du mois?
Ça, c'est le problème. On te dit que ton salaire, c'est ce montant, mais ils n'aiment pas payer. Les Libanais n'aiment pas payer. Ils te disent que pour raison de sécurité, ils préfèrent te garder l'argent. Et si tu partais, ils vont te les donner. Ou bien si tu veux acheter quelque chose, tu leur dis. Même acheter une carte pour téléphoner, c'est un problème. C'est à 10$ leur KLM, c'est à 10$. Mais c'est un sérieux problème parce que c'est à eux d'acheter la carte pour toi. Demain après demain, chaque fois, c'est comme ça. C'est comme ça.
Yolande comprend peu à peu la logique du trafic. Les agences paient les recruteurs et tous les frais liés au transport des migrantes. Et ensuite, ce sont les familles qui paient les agences pour avoir des domestiques dont elles confisquent les passeports et les salaires jusqu'à ce qu'elles se remboursent.
Quand je leur ai demandé le contrat en anglais, c'était expliqué que je leur dois une somme. Donc c'est après ça que je peux avoir la liberté de partir. Donc, j'ai accéléré mon rythme de remboursement dans un an et demi pour avoir ma liberté pour partir. Jusqu'au jour, le 8 mai 2012, qui était un dimanche, la fille, la grande, l'aînée, m'avait dit que voilà, son père voulait me menacer avec une arme. La fille pleurait même le matin-là. Et elle avait même appelé ma mère. Oui, pour lui raconter que voilà, son père voulait me faire du mal alors que je ne lui ai rien fait. Il a fait sortir son revolver pour me dire qu'il ne veut plus m'entendre dire que je veux partir, sinon je vais mourir. Avant qu'on ne rentre, il a tiré pour que je sache qu'il y a des balles dedans. Et je n'avais pas eu la peur là, c'est après que j'ai su que j'étais en danger vraiment, oui, oui.
Et à l'agence, ils ont réagi comment?
Les recruteurs de l'agence libanaise, eux aussi, ils étaient fâchés, ils étaient très en colère contre moi, que depuis que je suis revenue, moi, je leur faisais des histoires, et que comme ça, qu'ils n'ont pas le choix, mon propriétaire a décidé qu'il ne veut pas me donner un sou, eux aussi, ils ne vont pas m'aider, que je n'ai qu'à rentrer comme ça, mais vite. Et c'est de là qu'ils m'ont déposé à l'aéroport. Et j'ai pris l'avion. Je suis revenue le 21 mai 2012 à 11h30 à Lomé. Et c'était très dur pour moi parce que je n'avais pas mes bagages. Je n'avais rien du tout. Pas même un tricot, pas même un soutien-gorge. Donc, je me suis dit voilà que j'avais tout laissé. Et voilà que maintenant je reviens mais vide. C'était du catastrophe.
Combien avez-vous gagné? Combien d'argent cette famille vous doit? Encore aujourd'hui?
Ils me doivent 48 000 dollars.
Et en CFA?
22 800 000 francs CFA. Oui. C'était une vie d'esclavage que j'ai menée des années. Des années.
Comment va la vie aujourd'hui?
Par la grâce de Dieu, ça va. Je peux dire que ça va. Parce qu'aujourd'hui, je peux gagner mon pain. Je suis commerçante. revendeuse, pour ne pas dire commerçante, parce que je ne suis pas encore allée à l'extérieur, mais je sais que bientôt, par la grâce de Dieu, avec les sous que je vais récupérer du Liban, je vais aller à l'extérieur, je vais aller à Dubaï, à Chine, en Europe pour prendre des marchandises.
Une vraie Nana Benz des années 2000.
Oui, une vraie Nana Benz des années 2000, vraiment. Et voilà le terme même. Et vous connaissez les Nana Benz aussi? J'en rêvais. C'est pourquoi j'ai fait tout ce tracas-là. Et voilà que... Oh, je ne sais pas si je vais dire que la vie avait décidé autrement. Mais Valérie, c'était du... Oh non. Je n'ai même pas le mot adéquat.
Je garde le souvenir de Yolande, remariée et mère d'un troisième enfant, revendeuse et bientôt commerçante. Elle s'est battue du début jusqu'à la fin et espère encore être entendue des autorités pour récupérer son argent. Elle n'a pas oublié non plus que sans l'aide de la fille aînée d'un de ses premiers propriétaires, elle serait peut-être morte, car elle a subi de très graves violences. Ce qui rappelle que la protection des migrants n'est pas seulement une question juridique, mais aussi une question de solidarité et de civilité.
Très bien. Pour remplacer un acteur, vous me dites, vous venez et vous prenez sa place et vous faites ce qu'il aurait dû faire.
Installés dans la cour de l'école élémentaire de Vaughan, nous retrouvons les comédiens de la troupe Niagbé. Ils proposent au public de reprendre l'histoire de Passinoué, ce petit garçon de 12 ans confié naïvement par sa mère à une Tatasika peu scrupuleuse et recruteuse d'enfants. Souvenez-vous que dans la première version, Tatasika arrive à ses fins et Passinoué se retrouve à la rue après s'être enfui de la plantation où elle l'avait vendu. Dans ce théâtre forum, le principe est le suivant. Les acteurs reprennent la pièce à son début et à tout moment, le public peut stopper le spectacle et remplacer l'un des comédiens afin d'improviser un nouveau texte pour changer le cours de l'histoire.
Oui, monsieur, vous voulez changer? Vous voulez remplacer qui?
Le chauffeur.
Ah non, bah...
Je vais remplacer le chauffeur.
Ah, chauffeur.
Oui, tata.
Tout est prêt?
Oui, tout est prêt.
D'accord.
Mais quand est-ce qu'on peut partir?
On doit y aller rapidement.
Rapidement?
Oui.
Mais il fait nuit.
Justement, on doit arriver à la frontière pendant la nuit pour continuer à pied après.
Pourquoi on doit arriver à la frontière pendant la nuit? Pourquoi? Normalement, on passe les frontières le matin, comme ça on peut se faire contrôler facilement.
Vous faites votre travail ou vous posez des questions?
Franchement, je vais vous dire, hein, je fais mon travail. C'est dedans que je mange, c'est dedans que je gagne ma vie. Mais il ne faut pas que je vais avoir de problème.
Non. Et combien j'ai dit que je vais te payer déjà?
Vous avez dit que vous avez payé 40
000. Ok, j'ajoute 40 000 encore.
Je vais me créer des problèmes pour 40 000 francs seulement? Non, ne faites pas ça. Non. Je dis, on va arriver à la frontière en pleine journée, on va se faire contrôler.
On ne peut pas arriver à la frontière en pleine journée. On doit arriver en pleine journée là où on va, là où j'amène mes cousins, mes neveux.
Mais pourquoi toi, tu as beaucoup de neveux comme ça? Tu es la seule femme au Togo. Hein? Les enfants là même, là, je veux voir leurs papiers, je veux voir leurs papiers. Parce que si je ne vois pas les papiers des enfants, on ne peut pas partir. Parce que pour traverser la frontière, on doit se faire contrôler. Moi, j'ai mes papiers. Tu as tes papiers. Leur papier, là, c'est où? Je veux voir ça.
Pourquoi est-ce que tu poses trop de questions comme ça? Je te dis que ce sont mes neveux. En Afrique, là, on a des familles polygames, non? Ce sont mes neveux.
On a des familles polygames.
Uh-huh.
Peut-être que ton neveu, là, c'est le fils de la tante de l'oncle de mon frère, du papa de mon oncle. Qui c'est? Je veux un papier avant de traverser.
Bon, les papiers, c'est resté dans la voiture, dans l'autre sac dans la voiture. On va trouver un arrangement. Non, mais lâchez-moi.
Je ne peux pas te lâcher.
Bon, ok. Prenez.
C'est quoi ça?
Prenez d'abord.
Non, ça c'est une corruption.
Ok, prenez le sac.
Non, attends. Hey! Cette fois-ci, c'est super.
Bien, on les applaudit très fort.
Le chauffeur a eu un bon réflexe. Il sait qu'il risque d'être arrêté pour complicité de trafic d'enfants. Car depuis 2015, c'est la traite des êtres humains dans son ensemble qui est considérée comme un crime au Togo. Mais au regard de la loi, quels sont ceux que l'on peut considérer comme auteurs de la traite ?
Les auteurs de traite sont variés. Nous mettons dans ce paquet, nous mettons évidemment le recruteur parce qu'il est plus visible.
Kofi Degbovi, magistrat, président de la cellule anti-traite du ministère de la Justice du Togo.
Le recruteur, c'est celui-là qui prend les enfants ici et aller soit dans de grandes villes ou alors traverser la frontière avec ses enfants et aller dans d'autres pays. Ça peut être le Bénin, ça peut être le Ghana, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Nigeria, ça peut être le Liban, ça peut être l'Arabie Saoudite, ça peut être d'autres pays aussi où les gens seront exploités. Maintenant, dans le processus de la traite, nous avons ensuite le transporteur. Si le transporteur a agi en connaissance de cause, le transporteur aussi est poursuivi. Nous poursuivons également la personne qui va exploiter l'enfant. Mais quand c'est en dehors du territoire national, et parfois les identités, les renseignements d'identité que la justice reçoit ne lui permettent pas d'atteindre la personne qui va tirer véritablement profit de ce commerce vraiment honteux.
D'où la nécessité d'une collaboration entre États.
Nécessairement, et pour pouvoir y parvenir, il y a les accords bilatéraux, il y a des accords multilatéraux, des accords de coopération judiciaire entre les pays. Mais l'obstacle est que on peut appeler l'exploitant par un prénom ou un pseudonyme qui ne permet pas toujours de pouvoir le retrouver, quand bien même les États qui sont impliqués ont la volonté de s'entraider. Mais quand ça se passe au niveau national, il est facile de repérer l'exploitant et celui-là, il est pris en compte et il est aussi poursuivi comme les autres, y compris même les parents qui sciemment ont livré leurs enfants à la traite en prenant des cadeaux ou en les poussant dans les bras de ces trafiquants.
On peut être condamné à la prison ?
Oui, la prison. La prison, et je crois que la loi, elle est très dure aussi à ce niveau parce que quand vous commettez la traite de personnes, la peine qui est prévue par le code pénal, le minimum qui était prévu par le code pénal, c'est déjà de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Et là, et c'est pour décourager les trafiquants et en même temps éduquer la population. Et donc, au Togo, on peut dire que la traite n'échappe plus du tout à l'État, tout comme le trafic illicite de migrants également, qui a été pris en compte par le nouveau code pénal.
En termes d'action de prévention, au fond, est-ce que ce n'est pas la lutte contre la pauvreté le plus essentiel ?
Oui, la lutte contre la pauvreté est quand même essentielle, en tout cas dans le cadre des mesures de prévention que nous sommes en train de prendre. Mais est-il que la sensibilisation n'est pas seulement axée sur la lutte contre la pauvreté ? Et par exemple, le plus pauvre des milieux n'est pas forcément parti au Nigeria. Mais c'est une question d'ambition, une question d'encadrement. Quand les gens sortent des écoles avec des diplômes, il faut les encadrer, leur donner des idées. L'aide à l'installation de ceux qui ont appris des métiers, c'est important aussi. Ces gens-là ont la capacité, par exemple, de créer leurs propres entreprises. Donc l'État peut juste aider certains par des idées, avec d'autres formes d'appui aussi, pour que ces gens-là s'installent et qu'ils ne rêvent pas de Eldorado, selon eux, dans un autre pays, alors qu'ils peuvent réaliser ce Eldorado dans leur propre pays.
Répression, prévention, sensibilisation, le Togo manifeste sa volonté de lutter contre la traite, soutenue dans ses différentes actions par les chancelleries étrangères et particulièrement l'ambassade de France. Mais ce qui est nouveau, c'est la prise de parole des victimes, encouragée par le projet photographique de Folie Koumagan, connu pour son attachement à la culture syncrétique de son pays. Il propose une série de portraits sensibles des victimes de la traite, auxquels il donne l'opportunité de tomber le masque afin d'exprimer leurs émotions.
Nadège, bienvenue. Merci. Dans mon studio.
Ah, merci.
Je suis Folie, Koumougan, photographe.
Enchantée, moi c'est Nadège Edo.
Enchantée,
oui.
Bienvenue.
Merci.
Tu as fait un bon trajet.
Ah, oui.
Depuis où?
Ah, c'est depuis Amadahome.
Amadahome, Ayidou Gomé. D'accord, je connais.
Après Rolande, et Yolande, c'est au tour de Nadège de venir raconter son histoire dans le studio joliment baptisé « Les voix de l'image ». Étudiante en anglais, sans perspective d'avenir, elle aussi a voulu tenter sa chance avec une grande naïveté. Vendue par une agence pour devenir domestique, elle aussi a réussi à s'enfuir du Liban. Elle livre un long récit de maltraitance et d'exploitation, écouté avec beaucoup de respect et d'empathie par Folie.
Ça a été dur. Ce que tu as raconté là, c'est pas sucré, hein, c'est amer ça. Nadège, après tout ça là, qu'est-ce que tu penses?
Ce que j'en pense.
Oui. Tout ce que tu as subi, là où tu es maintenant, qu'est-ce que tu peux me dire?
Tout ce que j'ai à dire.
Oui.
C'est que. D'abord, moi, le problème qui se passe au Liban, la source c'est ici.
Oui.
S'il y a de l'aide du côté des filles, surtout les jeunes filles qui sont sans boulot, les jeunes filles qui sortent de l'université, on vous demande de vous former.
C'est ça.
Il n'y a pas de formation.
Oui.
Vous êtes là à la maison, vous traînez, après c'est pour faire des enfants et puis c'est fini, ça s'arrête là.
C'est ça.
Si au moins il y a une aide de la part du gouvernement, je pense que les filles ne peuvent pas s'aventurer dans ce genre de pays. Et puis les dames qui prennent les filles ici, même avec l'interdiction, ça continue.
Il faut ça clandestinement.
Clandestinement. Est-ce que c'est vraiment interdit? On les connaît. Par exemple, la dame dont je parle, on la connaît là depuis, on connaît son nom.
Mais pourtant, elle est libre.
Pourtant, elle continue. Au moins, si on légalise le voyage au Liban, c'est
ça. Officialise.
Officialiser voilà.
Ça devient une affaire inter-État.
Voilà. Et comme ça, si les filles veulent aller, pour que l'État sache que tel nombre
de filles togolaises vont au Liban. Voilà.
Et connaître les familles d'accueil, en cas de problème, qu'on sache que cette personne est ici, cette personne est là. Parce que de toutes les façons, quand on va parler, les gens vont dire que même si elles s'en vont pour souffrir, le Togo, vraiment, ça ne donne rien. C'est le Togo qui fait que les gens s'en vont. Et si vous vous dites de ne plus aller, que nous souffrons, même si on s'en va pour mourir, là, qu'est-ce que vous faites pour nous ici, pour que nous puissions rester?
Ben, Nadège, maintenant je vais mettre un peu de musique là pour égayer un peu notre séance de prise de vue, pour que tu sois dans de bonnes conditions.
D'accord.
Kid Messon, tu connais Kid Messon? C'est ce chanteur qui nous donne de l'espoir avec sa musique, ses paroles.
Mi fond en ma,
mi fond,
ben mi fond nuit de a,
mi fond,
mi fond en ma,
mi fond,
ben mi fond d'abord,
mi fond nuit de,
mi fond en ma,
mi fond,
ben mi fond nuit de a,
mi fond,
mi fond en ma,
mi fond,
ben mi fond d'abord,
mi fond nuit de,
dès que mi fond en ma,
mi fond,
y'a pas peur mon temps,
au fond,
y'a sur un coup de vieux de ma,
au fond nuit de.
Mi fond na ma,
mi fond,
ben mi fond nuit de a,
mi fond,
mi fond na ma,
mi fond,
ben mi fond da de a,
mi fond nuit de.
Pour quelles raisons vous avez accepté de participer à ce projet, de photographier justement ces femmes qui ont décidé de témoigner de leur expérience de la traite humaine, de leur expérience de l'esclavage?
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans mon studio, il y a spécialement une philosophie que je développe avec les masques, que j'ai intitulé « La vie du masque », qui est une interrogation personnelle sur la pluralité intérieure de l'homme. Donc je me suis vu qu'à travers ce projet-là, il y a une partie de ce que je fais qui se retrouve dans ce projet, c'est-à-dire le mensonge, on vous miroite des choses qui ne sont pas vraies, et le projet de traite, pour moi, avec le projet de masque, ont une similitude. Voilà. C'est pour ça que j'ai accepté immédiatement d'accompagner ces femmes pour pouvoir sensibiliser le public par rapport à ce fléau qu'est la traite. Encore une dernière. Mais je veux une expression de visage. Voilà, c'est bon. La dernière. Je crois qu'on a fini notre séance.
Comment c'était ce moment? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
C'était cool. Ça me donnait la joie, quoi. C'est pourquoi je souriais beaucoup en le regardant.
Alors, sur une des photos que moi j'aime beaucoup, non seulement vous souriez, mais en plus, vous avez un élan comme ça, votre bras est levé, et on voit bien votre force de caractère.
Oui. Oui, vraiment, oui. La force de caractère, oui. Je me dis que parfois, quand on voit sa vie en danger, il faut vraiment lutter avant que ce ne soit trop tard. Bon, si on lutte et que ça ne donne rien, au moins on a essayé. Donc, c'est pour cela que j'ai levé ma main comme ça, pour montrer que vraiment, j'ai lutté pour quelque chose. Et je vais continuer par lutter. Et grâce à vous, parce que je m'exprime actuellement là, ça me donne l'espoir vraiment que demain sera beau.
Lutte contre la traite, les femmes togolaises parlent. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mise en onde par Elliot Bourrel. Je tiens à remercier particulièrement Emmanuelle Arang, conseillère du ministre de la Justice du Togo, chef du projet régional de la lutte contre la traite des êtres humains, pour son efficace collaboration, ainsi que l'ambassade de France pour son soutien. N'hésitez pas à consulter notre page RFI La Marche du Monde pour retrouver tous les contacts et sites internet de cette émission, ainsi que notre page Facebook que vous pouvez commenter et partager. Et pour découvrir les portraits des trois femmes courageuses dont vous avez entendu les voix dans La Marche du Monde, rendez-vous en avril à l'Institut français de Lomé.